disais la dernière fois, comment se situe le problème de la critique, puisque c'est ce que nous allons faire ensemble. Alors, il faut bien saisir qu'une pensée, que le propre de la pensée, l'intelligence, ça nous le verrons au plan critique ensuite, implique cette autolucidité, c'est le propre de l'intelligence, qui lui permet de réfléchir sur sa propre activité et de comprendre ce que représente cette activité de pensée. C'est pour ça que la philosophie, dès le point de départ, a impliqué la critique. Je crois qu'il ne peut pas y avoir une philosophie sans une certaine autolucidité de la connaissance philosophique. La critique, cependant, ne s'est développée parfaitement qu'au niveau de certaines écoles propres, ce qu'on appelle le pyrrhonisme en grec. Pyrrhon, c'est le premier critique. On ne peut pas dire que les sophistes sont des critiques. Les sophistes sont, ce que je vous disais ce matin, les sophistes sont ceux qui veulent avant tout persuader par le point de vue du discours rhétorique. Alors, ils impliquent chez les sophistes certains éléments critiques. Il y a des sophistes qui sont critiques. Mais on ne peut pas identifier critique et sophiste. Tandis que le pyrrhonisme représente en Grèce, dans la philosophie grecque, un moment très particulier qu'on ne voit du reste presque jamais dans l'histoire de la philosophie grecque. C'est dommage, parce qu'il y a Sextus Empiricus, qui est un grand critique et qui est extrêmement intéressant de voir ce que représente ce moment critique en Grèce. Bon, je n'insiste pas. Dans la philosophie, notre philosophie occidentale, on pourrait dire que la critique est contemporaine de l'effort philosophique qui veut se séparer de la théologie. Chez Descartes, vous trouvez le doute. Le doute implique un aspect critique. On ne peut pas nier. Le doute méthodique. Et qu'est-ce que c'est que cette critique? C'est qu'on se met à douter de la sensation. On se met à douter de la valeur de connaissance de nos sensations. Nos sensations ne peuvent pas donner un contact direct avec le réel. On n'en est pas sûr, on peut se tromper. Puisque si vous voyez rouge, moi je vois vert. Et donc vous pouvez vous tromper. Mais c'est très intéressant de voir que la critique porte là-dessus, vous voyez, sur le fait que nos sensations peuvent nous tromper. Ça ne porte pas sur le jugement d'existence. Parce que le jugement d'existence existe même pour le vert et le rouge. Tandis qu'elle fait que si j'ai une malformation des yeux, du moins, je dis que c'est moi qui ai la malformation, parce que c'est peut-être les autres, après tout. C'est peut-être les autres qui voient la généralité. C'est pas parce que tout le monde voit vert le vert et que je suis le seul à le voir rouge que c'est moi qui me trompe. La quantité ne signifie rien du tout. Donc, on ne sait jamais qui a raison ou pas. Alors là-dessus, on peut discuter indéfiniment. Et c'est ce qui fait que Descartes commence par la méthode critique. Il fait ça, du reste, en fonction de la physique moderne. La physique de Copernic, il va faire ce doute méthodique. Et alors, à ce moment-là, commençant par le doute méthodique, il va chercher où il y a le point de certitude. C'est pour ça qu'on pourrait dire que déjà, chez Descartes, il y a une attitude critique antérieure à l'attitude philosophique. Je crois que ce serait juste de dire ça, que déjà chez Descartes, vous avez une attitude critique antérieure à l'attitude philosophique. Il critique la sensation et il recherche où est le point de certitude absolue. Et il veut construire toute sa philosophie sur ce point de certitude absolue. Et ce point de certitude absolue, c'est « je pense », le cogito. Et c'est comme ça qu'il commence par le cogito. Il commence par le cogito pour avoir la certitude absolue qu'on ne peut pas discuter. Donc, on voit bien que sa philosophie se fonde sur une attitude critique. Alors, vous pourriez vous poser la question, est-ce que l'attitude de Platon, qui commence par le point de vue des formes en soi, est-ce que Platon commence par une critique? C'est une question qu'il faut se poser quand on verra Platon. Je la traite pas ici, simplement ici, c'est simplement pour rappeler comment est née la critique. Puis Kant, Descartes et Kant. Ordinairement, on considère que Kant, c'est vraiment la critique. On ne dit pas que Descartes est la critique, mais le doute méthodique fait que Descartes commence sa philosophie par un doute. Et par le fait même qu'il met en doute la sensation, on peut dire que pour lui, il y a quand même une méthode critique qui est au point de départ. Mais c'est surtout Kant qui va, de fait, fonder toute la métaphysique sur la critique. Il va considérer que la métaphysique devant laquelle il se trouve, qui est en réalité une métaphysique, celle de Wolff, qui est une idéologie. Commencer à comprendre hein, ce que c'est que l'idéologie. N'est-ce pas? C'est-à-dire une philosophie qui commence par les idées et qui réfléchit sur les idées et qui réfléchit sur le concept et qui essaie de comprendre comment il y a un développement qui se fait à partir de là. Le développement progressif des idées et des concepts. Kant voit que cette métaphysique ne peut pas avoir la certitude puisque de fait, dans cette métaphysique du possible, on passe à l'existant. Et donc, il critique cette métaphysique au nom d'une certaine conception de la connaissance. Alors ça, c'est le grand point de vue de Kant. Au nom d'une certaine conception de la connaissance, il critique cette métaphysique et il veut, à partir de sa métaphysique, à partir de sa critique, élaborer progressivement une nouvelle métaphysique, ce qu'il n'a jamais fait. Vous voyez ? Et c'est ce que Clavel appelle la mauvaise conscience de Kant. Il faut découvrir une nouvelle métaphysique pour continuer d'être professeur de philosophie. Il ne faut jamais oublier ça, parce que c'est excellent. C'est Clavel, il ne faut pas dire ça de vous-même à l'examen, si vous passez un examen sur Kant, parce qu'on vous mettra un zéro. Mais si vous le mettez que c'est Clavel, on sourira. N'est-ce pas ? Parce que Clavel fait sourire. Il fait sourire parce qu'il est astucieux. Et il met des petites mines là où les autres n'osent pas en mettre. Tandis que lui, il ose en mettre, il n'hésite pas à en mettre. Vous voyez, il va très loin dans ses intuitions. Alors, Kant critique la métaphysique, cette métaphysique est insupportable, elle ne peut pas exister, et il désire retrouver une nouvelle métaphysique. Et c'est en ce sens-là qu'on peut dire qu'à partir de Kant, dans le développement, on trouvera au terme Heidegger. Heidegger retrouvera penser-l'être, et penser-l'être à partir de la critique de Kant. Alors, la grosse question, je pense, entrer plus d'un point de vue historique, ce n'est pas le but. La grosse question, et c'est la première question qu'on doit se poser au point de vue critique. La critique est-elle antérieure à la philosophie ou la philosophie est-elle postérieure? Vous comprenez que c'est une question absolument capitale. Ça n'a l'air de rien, vous allez me dire, oh, ça c'est une petite question seconde. Non, c'est la question fondamentale et première. Considérer que la critique est seconde et que la philosophie est première. Dois-je considérer au contraire que la critique est première et que la philosophie et la métaphysique, la philosophie première, donc la métaphysique, est seconde. Voilà la position de Kant. Ici, mettre la philosophie en premier lieu et la critique en second lieu, c'est sûrement la position d'Aristote. Parce qu'il y a une certaine critique chez Aristote. Mais pour Aristote, la critique est seconde. Pour Kant, c'est l'inverse. Mais c'est toujours intéressant de voir là, parce que là, on voit très très nettement une position très très différente entre ce que représente la philosophie grecque, bien qu'elle ait connu la critique, la philosophie grecque, sauf chez les Pyrrhoniens. Les Pyrrhoniens font une critique pour une critique et il n'y a pas possibilité d'une élaboration de philosophie. Alors ça, c'est la troisième position. La critique seule demeure. Alors, on aboutit à un scepticisme au sens très rigoureux. Je ne peux rien dire de vrai. Alors, ça mettait la position pyrrhonienne, Pyrrhon. Vous mettriez dans la position des modernes, en définitive, Clavel. Clavel aboutit à dire il n'y a que la critique. Et on rejoint une position classique, si vous voulez. Il n'y a que la critique, je ne peux absolument pas philosopher. La philosophie n'existe pas. Tandis que je crois que chez Kant et chez Aristote, pour les mettre ensemble, c'est toujours amusant, n'est-ce pas, chez Kant et chez Aristote, il y a critique et philosophie. Bon. Nous allons essayer de comprendre comment, au plan philosophique, je ne peux pas accepter la position de Kant. Vous allez me dire, ah, donc vous avez l'un a priori aristotélicien. Non, j'essaie de ne pas avoir d'a priori aristotélicien. Oui, parce qu'on pourrait pendant tout le cours se demander, n'est-ce pas, à laquelle on doit s'asseoir. Là, ce serait l'âne de Buridan. Il a deux chaises. La moitié du cours, s'il y avait du soleil, la moitié du cours d'un côté, la moitié du cours de l'autre. Là, il vaut mieux, dans ce cas-là, s'abstenir de s'asseoir. Voilà. Alors, on est au-dessus. Et critique et philosophie. Oui. Avec un double symbole de la chose. Alors, je vais me demander au plan philosophique, et puis on critiquera cette position. Au plan philosophique, la critique est-elle avant, la philosophie est-elle antérieure? Qu'est-ce que c'est que la critique? Alors, la critique, Clavel dit tout simplement, critique, c'est tirer au clair, c'est crimer, discerner, je crois qu'en effet c'est ça, c'est tirer au clair, discerner, faire son tri. Il y a des éléments qu'on laisse tomber, des éléments qu'on accepte. Au fond, c'est très difficile à savoir exactement ce que c'est qu'une critique. Au point de vue ordinaire, je sais très bien que ce que c'est critiquer. Critiquer, je veux essayer de saisir une norme qui me permettra d'être absolument sûr. Et tout ce qui sera conforme à cette norme, je l'accepte. Ce qui n'est pas conforme à cette norme, je le laisse tomber. Donc on pourrait dire que la critique, elle cherche une norme. Est-ce que la critique cherche une norme? Eh bien, je dirais non. Je crois qu'il n'y a pas de norme pour la vie de l'intelligence en dehors de l'intelligence elle-même. Or, si je suis devant une critique fondamentale, il faudrait donc chercher une norme à quelque chose qui est en dehors de l'intelligence. Donc une norme qui reposerait sur la foi, ou une norme qui reposerait sur la tradition. Tout ce qui est conforme à une tradition, très bien. Vous voyez, c'est comme, il peut y avoir une norme dans une école. Si j'ai l'école thomiste, je peux dire qu'il y a une norme, ce que saint Thomas a dit. Et tout ce qui est en dehors de ce que saint Thomas dit, je l'exclus. Parce que c'est très difficile. Au fond, pratiquement, la vie de l'intelligence n'applique pas de normes. Donc, il ne faut pas prendre critique dans ce sens-là. Il faut prendre critique dans le sens, beaucoup plus, de discerner. Et je dirais que la critique, c'est plutôt, on arrive toujours à dire, à la critique, c'est l'autolucidité. Je vais un peu plus loin, c'est être lucide sur ce que je pense, sur ce que je dis, pour pouvoir à chaque instant le justifier. J'aime mieux dire auto-lucidité pour une justification. Une justification qui doit se faire en fonction de la démarche qui me permet d'affirmer ou de nier telle ou telle proposition. Alors, donc, c'est l'autolucidité qui implique une justification. C'est ça, je crois, le fait de la critique. La critique implique un discernement. Pour qu'il y ait discernement, il faut qu'il y ait vraiment l'auto-lucidité, et il faut qu'il y ait justification. Je verrai progressivement quels sont les points sur lesquels repose cette justification. Je prends un exemple, si vous voulez. Quand on affirme, par exemple, l'âme est immortelle, affirmation qui inquiète certains, l'âme est immortelle. Est-ce que vraiment, philosophiquement, je peux affirmer que l'âme est immortelle? Si je vois, si j'affirme que l'âme est immortelle, il faut que je puisse justifier. Autrement, c'est un a priori. Or, je crois que le propre de la philosophie, c'est de supprimer tous les a priori. Je crois que c'est le propre d'une pensée philosophique. Je crois que l'a priori est quelque chose qui n'est pas philosophique. Un vrai philosophe devrait supprimer tous les a priori. C'est bien que tout le monde ne sera pas d'accord là-dessus, mais je crois que le fait de la philosophie, ça doit arriver à supprimer tous les a priori. Alors vous allez me dire, ça repose sur quoi la philosophie? Si ma philosophie repose sur l'expérience n'est pas un a priori. La réalité qui est antérieure à moi n'est pas un a priori. La réalité qui est autre que moi n'est pas un a priori. Dire que le monde existait avant moi, est-ce que c'est un a priori? Ça, c'est amusant. Posez-vous la question. Posez-vous la question. Dire que le monde existait avant moi, est-ce que c'est un a priori? Affirmer, vous voyez, c'est quand même quelque chose. Vous l'affirmez constamment que le monde existe avant vous. Est-ce que le monde existe avant vous? Je peux au moins dire que j'existe avant vous. Est-ce que c'est un a priori de dire que j'existe avant vous? Ou est-ce que c'est une expérience? Ça fait partie de l'expérience. C'est pas un a priori. Alors si j'existe avant vous, le monde existe avant vous. Chacun d'entre nous, nous avons toujours eu l'expérience de gens qui étaient plus âgés que nous. Ah, c'est un a priori qu'ils soient plus âgés que vous. C'est pas un a priori. Dans notre jeunesse, nous avons rencontré des vieillards. Et dans notre vieillesse, on rencontre des jeunes gens. Vous voyez. Donc le monde existait avant et le monde continuera après. On est inscrit dans une série. Alors est-ce que cela, c'est tout simplement prendre conscience que je suis dans une série, qu'il existait quelque chose avant moi, qu'il existera quelque chose après moi? Il faudra arriver à définir qu'est-ce que c'est que l'a priori. Quand on dit que l'expérience n'est pas un a priori, pour moi l'expérience n'est pas un a priori. C'est la découverte de l'autre, de quelque chose qui existe. Et au fond, cette auto-lucidité, cette justification, demandera toujours de revenir à l'expérience. Partant de l'expérience, je supprime l'a priori. Qu'est-ce que c'est que l'a priori? Si on essaie de saisir ce que c'est que l'a priori. L'a priori existe dans les philosophies qui acceptent qu'il y a des idées innées. Si je disais, par exemple, j'ai en moi l'idée d'infini et elle est innée, ce serait un a priori. Si je disais qu'en moi, il y a des formes a priori, c'est-à-dire il y a des déterminations qui ne dépendent pas de mon expérience et qui ont toujours vécu dans mon intelligence, je serais devant un a priori. Donc l'a priori, c'est d'accepter une détermination qui s'impose à moi comme un absolu. C'est d'accepter une détermination qui s'impose à moi comme un absolu. Une détermination devant laquelle, une détermination que je saisis dans mon intelligence, une détermination qui s'impose à moi et que je ne discute pas, et à laquelle je ramène tout. Donc je ramènerai tout à un a priori, et je ramènerai tout à l'expérience. Je crois que c'est toujours comme ça qu'on va en philosophie. Une philosophie idéaliste, la plupart du temps, ramène tout à des a priori. Une philosophie qui va s'appuyer sur l'expérience va revenir toujours à l'expérience pour essayer de comprendre et supprimer le plus possible les a priori. Nous en avons tous, hein. Personne d'entre nous peut dire qu'il n'a aucun a priori. mais nous devons prendre conscience de nos a priori pour arriver petit à petit à les réduire le plus possible. On peut avoir conscience de nos a priori dans l'ordre pratique, dans l'ordre politique. On a des a priori. Ce sont ordinairement ceux qui restent le plus longtemps. Ce sont des a priori politiques. Des opinions politiques de fait qui nous permettent de déterminer certaines choses et de voir ça. C'est, ordinairement, c'est comme ça. Et on a beaucoup de peine d'accepter que ce sont des a priori. Alors que très souvent, ce sont des a priori. Ce sont des opinions qui n'ont pas été discutées. Alors, je pourrais donner aussi ça comme a priori. Une opinion qui n'a pas été discutée, ça peut être un a priori. Je suis de droite, je suis de gauche. Je suis progressiste, je suis intégriste. Très souvent, ce sont des a priori. Religieux, ce qui est pire. Elles sont des a priori religieux. On n'a pas discuté, on n'a pas discerné. Si on prend conscience de ce qu'on affirme, c'est plus un a priori. Je dis, c'est la vérité. J'essaie de comprendre et de voir les choses. Tandis qu'un a priori, c'est une opinion qui n'a pas été discutée, c'est une opinion que j'ai reçue, une opinion que j'ai reçue depuis tout le temps. Je ne sais même pas dire d'où ça vient. Je veux dire, ça m'est tombé du ciel un beau jour. Ça m'est tombé du ciel un beau jour. Mais au fond, la foi serait pour le philosophe un a priori. Parce que c'est tombé du ciel. Donc, si c'est tombé du ciel, c'est un a priori pour le philosophe. Le philosophe croyant, lui, le croyant ne dira pas que sa foi est un a priori. Il dira que sa foi, c'est une lumière, une révélation, une lumière qui vient de Dieu. Donc, ce n'est pas un a priori pour le croyant. Mais pour l'incroyant, ou pour le philosophe, c'est une donnée qui n'est pas fondée sur l'expérience. Parce qu'il y a des a priori qui peuvent être premiers. Quand il s'agit de formes données immédiatement, elles sont premières, je ne peux pas aller au-dessus. Elles sont des déterminations. Je crois que tous les a priori sont dans l'ordre des déterminations. Et dans l'ordre des affirmations, des idées, il peut y avoir des idées a priori, des formes ou des opinions. Je crois que ce sont les a priori, sont toujours dans ces ordres-là. Eh bien, je crois que le propre de la critique, c'est d'essayer de prendre conscience de ce que représente ma vie intellectuelle, de prendre conscience que dans ma vie intellectuelle, il peut y avoir des a priori, ou il peut y avoir cette chose plus intelligente que les a priori, telle affirmation s'appuie sur telle autorité. Dire « j'affirme que l'âme est immortelle parce que tel grand philosophe l'a dit », ce n'est pas un a priori. C'est une pierre d'attente. Ce n'est pas un a priori parce que je vois la source, l'autorité. Et je dis la source. J'ai parfaitement le droit de m'appuyer sur certaines autorités philosophiques et de dire, c'est pas un a priori. L'a priori, ce serait d'oublier l'autorité. J'oublierai l'autorité, j'oublierai la source d'où ça vient. Alors à ce moment-là, ça devient un a priori. Vous voyez, c'est très subtil, cette chose-là, parce que c'est au fond une chose très cachée en nous. C'est tout le halo affectif qui encombre notre vie. Notre vie intellectuelle, c'est tout le halo passionnel devant lequel se fait notre vie intellectuelle. Eh bien, je crois que la critique doit essayer de comprendre de la manière la plus précise, donc discerner le cheminement de ma vie intellectuelle, en avoir une auto-lucidité et pouvoir justifier chacune de ces démarches, en revenant toujours à l'expérience. Bon, si je prends ce point de départ de la critique. Vous voyez qu'une telle critique est toujours quelque chose de second. Parce que la critique implique une attitude réflexive. Tout le monde est d'accord là-dessus. La critique implique une attitude réflexive. Pour critiquer, il faut cette attitude de réflexion sur ma propre activité. Donc, si la critique implique toujours une attitude de réflexion, il faut donc qu'il y ait un premier moment qui soit antérieur à la réflexion. Même si c'est simultané dans le temps. faut un premier moment qui soit antérieur à la réflexion. Et ce premier moment qui est antérieur à la réflexion, je l'appelle justement une connaissance, on pourrait dire spontanée, mais qui peut être aussi une connaissance qui va plus loin et qui soit une connaissance philosophique. S'il existe, vous voyez, je reprends d'une autre manière, s'il existe une connaissance spontanée non critique, cette connaissance spontanée non critique pourra se développer pour elle-même. Il n'y a rien qui l'arrête. Et la critique viendra en second lieu pour discerner ce qui, dans cette connaissance immédiate et spontanée, est valable ou n'est pas valable. Oui. Donc la critique vient en second lieu après la philosophie. Puis-je mettre la critique en premier lieu? Il faut aller jusqu'au bout. Pour garder le crible dans les deux sens. Puis-je mettre la critique en premier lieu? Ou, si vous voulez dire, une pensée ne sera philosophique que si elle est critique. Et donc, avant la critique, j'ai une pensée spontanée en philosophie, préconceptuelle. Elle est peut-être extrêmement riche, elle est peut-être même ce qu'il y a de plus riche, mais elle n'est pas philosophique. Quand Heidegger dit que penser l'être, c'est préconceptuel, il nous fait comprendre que penser l'être, c'est absolument en dehors de toute critique. C'est antérieur à toute critique. Et pour lui, c'est ça la pensée. Vous voyez, c'est une revendication de la pensée au-delà de la critique. Ça, c'est net, au-delà de la critique, au-delà de la logique. Mais c'est préconceptuel. Alors, pour Heidegger, c'est la pensée la plus importante. Je crois qu'en effet, que la pensée antérieure à la critique, c'est la pensée la plus importante. C'est la pensée la plus vitale. Alors, je pourrais pousser un tout petit peu, dire, voyez bien, si quelqu'un comme Heidegger considère que penser l'être, c'est ce qui est principal, et que c'est antérieur au concept, c'est antérieur à toute attitude réflexive, il découvre là quelque chose de très important pour nous, c'est que, en effet, avant cette attitude réflexive, j'ai un développement de la pensée philosophique, de la pensée humaine pour elle-même. Bon, là, c'est l'affirmation de Heidegger. Je peux peut-être aller plus loin et dire, est-ce que la critique qui est une pensée réflexive, est-ce qu'elle apporte quelque chose? C'est là où je crois que j'ai la véritable réponse. Parce qu'Heidegger, c'est un cas. Si je ne suis pas Heidegger, c'est très bien de m'en servir, mais comme je ne me mets pas disciple de Heidegger, et puis se mettre disciple de Heidegger, ce n'est pas encore une pensée philosophique. C'est s'appuyer sur l'autorité de quelqu'un, de vénérable. Mais si s'appuyer sur l'autorité de quelqu'un, et s'appuyer sur l'autorité de quelqu'un, ce n'est pas encore faire de la philosophie. Sert de Heidegger parce qu'il est devant moi, parce que je le considère comme plus intelligent que moi, parce que, ayant dit des choses intéressantes, je me sers de lui. Ce n'est pas encore la philosophie. Je reviens à une position proprement philosophique. Je suis tout à fait d'accord que la critique présuppose une première connaissance spontanée. Mais cette connaissance spontanée peut-elle devenir philosophique sans la critique? C'est ça le point de vue le plus difficile. Cette connaissance spontanée peut-elle devenir philosophique sans la critique? Alors, ce qu'il faut se poser la question, cette connaissance antérieure à la critique, qu'apporte la critique à cette connaissance? Elle apporte une lucidité. Mais est-ce que la critique lui apporte une nouvelle détermination? Est-ce que la critique fait que cette pensée antérieure est changée? Ou simplement précisée? Autrement dit, la critique, cette attitude réflexive qui vient du sujet, pensant, va-t-il apporter une nouvelle forme à ma connaissance? Et cette nouvelle forme que l'attitude réflexive va apporter à ma connaissance devra venir du sujet. va venir de moi-même et non pas de l'expérience. Parce que l'expérience serait retombée dans une pensée immédiate qui ne serait pas critiquée. Vous voyez le problème, j'espère. Vous avez l'air de plus suivre très bien. Et c'est pourtant important, c'est pour essayer de comprendre comment il peut y avoir un développement philosophique antérieur à la critique. Et je crois ça très important, de saisir que la critique n'apporte qu'une précision, une lucidité, mais n'apporte pas une nouvelle détermination. Cette attitude critique implique une réflexion qui vient du sujet connaissant. Donc, si elle apporte une nouvelle détermination, cette détermination doit venir du sujet connaissant. Donc, elle doit être une forme d'appréhension. Du sujet connaissant, pas à partir de l'expérience. Donc, elle doit venir du sujet, et elle doit venir du sujet connaissant, et elle doit être une forme d'appréhension. Si, au contraire, la critique n'apporte rien de nouveau, simplement une lumière. Donc, si la critique n'apporte rien de nouveau, simplement une lumière, à ce moment-là, la critique n'est pas la détermination de ma connaissance. Il faudra donc que ma connaissance puisse arriver à se déterminer par elle-même, grâce à l'expérience, grâce à une recherche philosophique antérieure à la critique. Et ce sera à partir de la connaissance, avec le concours de l'intelligence, que ma connaissance philosophique se formera, et non pas par la critique. De sorte que la critique est bien quelque chose d'utile, de nécessaire pour me donner une lucidité plus grande, pour me permettre de justifier tout mon cheminement philosophique, mais la critique n'est pas première. La critique n'est pas la philosophie. Elle vient uniquement apporter une lumière d'auto-lucidité, de justification, mais elle n'apporte pas avec elle-même une détermination propre à ma connaissance philosophique. Ma connaissance philosophique devra se déterminer par elle-même à partir de l'expérience. Je prends d'une autre manière pour que vous compreniez mieux. Est-ce que les principes que je veux découvrir, sont-ils des principes qui arrivent de la critique, ou est-ce que les principes arrivent à partir de l'expérience? Si les principes viennent de l'attitude critique, ces principes viendront donc de l'attitude réflexive de mon intelligence. Et s'ils viennent de l'attitude réflexive de mon intelligence, je peux donc dire que ce sont des formes a priori. Ça vient du sujet, et ça n'a rien d'objectif. Et alors à ce moment-là, je considérerai que la philosophie n'est pas du tout une connaissance de la réalité et de moi-même, mais une connaissance a priori. Et au fond, c'est ce que Kant arrive à dire. Kant arrive à dire que la critique apporte des déterminations propres. Et apporte des principes propres, apporte des formes propres dans la réflexion. Mais alors à ce moment-là, je suis devant le primat du sujet à l'égard de la réalité. La réalité, je ne la connais qu'en appliquant mes déterminations au réel. Je n'insiste pas plus, parce que d'une certaine manière, vous allez dire, ça présuppose déjà toute la philosophie et toute la critique. C'est vrai, mais il faut quand même comprendre que nous nous plaçons dans une perspective où nous considérons la critique comme seconde et la philosophie comme première. Et que je peux le justifier en raison même de l'expérience source de ma connaissance philosophique. Si je mets la forme a priori antérieure à l'expérience, la critique est première. Si je mets l'expérience antérieure à des formes a priori, la philosophie est première. Je résume un peu. Deux grandes positions qu'on est obligé, au moins aujourd'hui, de regarder, même si on n'arrive pas tout de suite à donner les solutions. On doit essayer au moins de regarder ça et comprendre qu'il y a là un problème très, très, très important. C'est toute une conception de l'intelligence qui est en jeu. C'est nécessaire, du reste, au fond. La philosophie va tout de suite nous donner une certaine conception de l'intelligence. Ça ne peut pas être autrement. Et c'est le propre de la critique et de la philosophie. Chaque fois que j'avance davantage en philosophie, je comprends mieux ce que c'est que penser. Normalement. Tous les jours un peu plus. Je creuse davantage, j'entre davantage dans ce que c'est que la pensée. Et grâce à la critique, j'en ai une lucidité plus grande. Donc, nous nous plaçons dans cette perspective. La critique est quelque chose de second qui présuppose la philosophie. Alors, vous allez me dire tout de suite, alors c'est impossible, nous n'avons pas encore fait beaucoup de philosophie, qu'est-ce que ça va faire? C'est bien évident. C'est sûr, c'est au fond, c'est ça la très grosse difficulté. Parce que normalement, on devrait faire tout un cycle de philosophie et mettre la critique au terme. Et cependant, il n'est pas mauvais de faire la critique en même temps que la philosophie. Ça, c'est pour vous encourager. Et pour dire seulement, la critique, c'est seulement ceux qui ont déjà fait 2 ans de philosophie. Ce sera impossible à faire, puisque ceux qui ont fait 2 ans de philosophie ont désir de plus assister au cours et donc d'être libérés de la critique. Oh. C'est très vrai, ils ont désir d'être libérés de la critique. Alors, parce qu'ils ont désir d'être libérés de la critique, et pour qu'ils comprennent un tout petit peu quand même ce que c'est que la critique, on va la faire quand même avant. Bon. Pour être sûr qu'elle soit faite. Mais il y a des quantités de choses que vous ne comprendrez pleinement que quand vous aurez vu le problème sous les deux faces. Et au fond, je crois que c'est l'intérêt de la critique. C'est que ça nous permet de regarder tout à travers un miroir, rétroviseur. Et puis vous avez le regard direct. La philosophie, c'est le regard direct. Et la critique, c'est toujours de revenir sur ce que je connais, comment je le connais, et d'essayer de préciser les différentes étapes par où ma connaissance avance. Et j'ai dit, la critique, c'est d'essayer de comprendre comment je le connais. C'est très important. C'est comment je le connais. Vous voyez, là, nous avions vu la dernière fois comment la logique regarde l'universel, et la critique regarde le comment de ma connaissance. Alors, je présuppose toutes les démarches philosophiques qui sont faites antérieurement. Et je me mets à réfléchir, nous avons tous un peu de philosophie, hein, tous, alors c'est déjà quelque chose. Même si ce n'est pas très lourd comme bagage, on a quand même quelque chose. Donc on va quand même pouvoir cerner quelques problèmes de critique importants à saisir. Le premier problème de critique, je crois que c'est le premier. J'irai vite, hein, parce que nous l'avions déjà vu l'année dernière, alors je ne peux pas répéter. Mais je le reprends quand même pour que on puisse voir un commencement. Le premier problème de critique, c'est de voir la multiplicité de mes connaissances. Et alors, on voit tout de suite la nécessité de mettre un peu d'ordre là-dedans. La multiplicité de mes connaissances. J'ai des connaissances philosophiques, j'ai des connaissances scientifiques, c'est déjà pas si mal. J'ai des connaissances artistiques, j'ai des connaissances affectives, j'ai des connaissances dans tout à fait pratique. Regardez un règlement, c'est tout à fait pratique. Regardez un plan d'une ville, c'est dans la pratique, il s'agit de pas se perdre. C'est une connaissance, vous allez dire, connaissance artistique, oui. Mais au fond, artistique, pas très artistique non plus, parce que j'essaie de comprendre pratiquement un peu comment cette ville se situe, pour voir un peu. Une connaissance. Vous n'allez pas me dire, un chien, quand vous l'amenez à Fribourg, il ne va pas demander, première chose, la carte. N'est-ce pas ? Regardez la carte. Non, pas du tout. Il n'a pas besoin de ça, c'est très curieux. Alors que quelqu'un qui arrive dans une ville et qui est habitué, vous pourriez montrer une carte, comme ça je me situe tout de suite, alors je vois à peu près où ça se situe, la grandeur de la ville. Voilà. J'ai une connaissance pratique. La connaissance affective, le chien l'aurait plus facilement. Il faut, ça lui suffit, pratiquement. Ça lui suffit. Il est avec son maître, c'est suffisant. Le maître fera ce qu'il veut, ça lui est égal. Il est petit esclave par derrière. Connaissance affective. Connaissance artistique. Ah, c'est une connaissance où déjà nous avons des idées, des aspirations, et ainsi de suite. Nous avons, sans aller plus loin, vous voyez, je vois tout de suite qu'il y a en moi toutes ces connaissances. Même si je n'ai pas fait beaucoup de philosophie, je sais quand même que ça existe. ça existe, il y a quelque chose, il y a quelque chose. Connaissance philosophique, il y a des connaissances scientifiques, mathématiques, physiques, géologiques, et ainsi de suite, biologiques, j'en ai fait. Et si je regarde la diversité des sciences, ou alors je me perds. C'est vrai, c'est extraordinaire la diversité des sciences. Alors, ça c'est le premier problème critique, c'est d'essayer, vous voyez, la map monde de mes connaissances. Il s'agit de mettre un peu d'ordre là-dedans. Cette multiplicité, il faut l'ordonner. C'est important de l'ordonner. Est-ce que je peux l'ordonner? Ou est-ce que je peux simplement dire... Est-ce qu'il y a une exigence d'ordre dans la multiplicité de mes connaissances? Si j'ordonne, il faut un principe d'ordre. Toute multiplicité se ramène à l'ordre par un principe d'ordre. Alors, quel sera le principe d'ordre? Est-ce que ce sera une de mes connaissances parmi les autres? Ou est-ce que ce sera quelque chose d'en dehors de la connaissance? Vous voyez, tout de suite, je me touche à un problème qui est très important. Y a-t-il dans cette multiplicité un ordre? Est-ce que cette multiplicité, elle implique un ordre? Si elle implique un ordre, elle implique un premier. Elle implique un dernier, forcément. Elle implique ça. Alors, est-ce que je peux découvrir ce premier, puisqu'au fond, si cette multiplicité ne pourrait être ordonnée que si je saisis le premier. Si je ne saisis pas le premier, je ne peux pas saisir cet ordre. Et je suis dans cette attitude de réflexion sur ma vie intellectuelle où je vois cette très grande diversité et à première vue, je ne vois pas du tout d'ordre. Alors, c'est là le gros problème, au fond. Est-ce que le but de la critique n'est pas-il de mettre un peu d'ordre dans ma connaissance? Parce que ce n'est pas indispensable, donc je ne pars pas de l'ordre de ma connaissance, ce sera un a priori. Qu'est-ce qui me dit que ma connaissance est ordonnée? Je peux en avoir un vague désir, une espèce d'appétit naturel, en disant « le propre du sage, c'est d'ordonner ». Phrase que saint Thomas affirme beaucoup. Ce n'est pas un a priori, ce que je dis, saint Thomas. Phrase qu'Aristote a répété beaucoup. « Le propre du sage, c'est d'ordonner ». Alors, la connaissance, la multiplicité des connaissances ne sera ordonnée que chez le sage. Qu'est-ce que c'est que la sagesse? Vous voyez, je retrouve toujours des problèmes-là. C'est difficile. Je constate cette multiplicité et je me pose la question, est-ce qu'il y a un ordre? Et je ne le vois pas au point de départ. Donc, peut-être que le but de la critique, c'est d'essayer de saisir ce premier. C'est peut-être de saisir à travers cette multiplicité ce qui va permettre d'ordonner. Je ne peux pas dire a priori, il n'y a pas d'ordre dans ma vie intellectuelle. Je ne peux pas le dire. Au contraire, je suis plutôt incliné à dire qu'il y a un ordre. Plutôt incliné à dire qu'il y a un ordre. Mais je ne sais pas lequel. Je serais plutôt incliné à dire dans ma vie passionnelle et affective, il n'y a pas d'ordre. Tandis que dans ma vie intellectuelle, dans ma vie de connaissance, il y a un ordre. Et instinctivement, je laisse passer devant certaines connaissances en les considérant comme plus parfaites. Vous voyez, au fond, ce qu'Aristote fait au point de départ de sa métaphysique, au livre Grand A, ce que nous devons tous lire, le premier livre de la métaphysique d'Aristote. Eh bien, Aristote, là au début, fait une comparaison entre certaines connaissances d'ordre expérimental, d'autres connaissances d'ordre scientifique. Et se pose la question, lesquelles sont plus parfaites pour découvrir un ordre dans la connaissance. Donc, c'est un début de critique, ça. Découvrir l'ordre dans la multiplicité de mes connaissances. Bon, nous continuerons la fois prochaine. Essayez de réfléchir là-dessus. Parce que c'est pas si commode que ça. Premier problème critique, y a-t-il un ordre dans la multiplicité de mes connaissances?